Frères et sœurs, l'Éternel nous accueille. C'est de l'Éternel précisément que nous recevons jour après jour la grâce et la paix au cœur même de notre vie. Avant que nous le cherchions, il nous a trouvés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. Avant que nous venions ici, il nous a invités. Et c'est donc pour nous, à travers ce culte, l'occasion de répondre à cet appel qui nous est lancé. Un appel à la vie, un appel à la vie en toute plénitude. Alors levons-nous pour nous réjouir par le premier chant indiqué sur le livret liturgique violet qui figure au début du psautier français. Oui, réjouissons-nous au Seigneur. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours, et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, et l'assemblée des croyants célèbre ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Alors, heureux, heureux le peuple qui sera t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Amen. Poursuivons dans cette dynamique de la louange avec le chant du psaume 84. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du psaume 84. Prenons place. À celui qui veut connaître la volonté de Dieu pour sa vie, eh bien, il suffit d'écouter ces paroles contenues dans ce passage de l'Évangile selon Matthieu que l'on intitule souvent le Sermon sur la montagne. Il est écrit ceci : C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé ? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Éternel, nous avons souvent entendu ta parole, mais nous l'avons peu écoutée. Nous avons beaucoup prêché la liberté, nous en avons même fait un slogan, un étendard. Mais l'avons-nous vraiment vécu ? Nous avons appelé les autres à la paix, bien évidemment. Mais en ce qui nous concerne, l'avons-nous ne serait-ce qu'un peu manifesté ? Peut-être est-ce là ce que nous appelons le péché, cette distance qu'il y a entre ce que nous étions en mesure d'accomplir et ce que nous avons réalisé effectivement. Alors, pour n'avoir pas écouté ta parole, pour n'avoir pas vécu en homme libre, pour n'avoir pas agi en ouvrier de paix, Éternel, pardonne. Éternel, accorde-nous ta grâce. Amen. Qu'entendons-nous par évangile ? Une bonne nouvelle ? Mais quelle bonne nouvelle ? Eh bien, les textes bibliques, de part en part, nous révèlent que Dieu est amour. Il est cette vérité qui nous rend libres, libres des asservissements et des convoitises de ce monde, libres de nos propres désirs et de toutes nos culpabilités. L'Éternel nous rend libres, libres d'aimer et libres d'accepter d'être aimé, libre de pardonner et libre d'accepter d'être pardonné, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Oui, par Jésus-Christ, l'Évangile dit que tout ce qui pourrait être qualifié de péché nous est pardonné. Et par le Saint-Esprit, une puissance de vie nouvelle nous est accordée. Et c'est ainsi que Dieu inscrit en chaque cœur l'assurance de son pardon, l'espérance de ce salut déjà offert, pour que nous puissions construire dès à présent le royaume auquel il nous appelle. Amen. Suite à cette déclaration d'amour qu'est l'Évangile, nous pouvons exprimer notre foi en ces termes. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il n'est pas resté dans sa majesté solitaire. Il crée le monde et il fait de l'homme son vis-à-vis, son associé. Il est engagé avec nous dans l'aventure humaine. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il ne nous a pas abandonnés à notre révolte, à notre perdition. En Jésus, il a pleinement partagé notre humanité. En Christ, il a vaincu la mort et il nous a rendu l'espérance. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Jour après jour, il est présent parmi les hommes, dans son Église, par son Esprit, pour apaiser nos craintes, guider nos hésitations, affermir notre foi, animer notre vie et nos actes. Oui, je crois au Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Frères et sœurs, prenons place pour entendre un passage biblique issu du livre des Juges. Au chapitre 9, il y a une fable attribuée à Jotham. C'est un conte, un récit qui intervient après la prise de pouvoir d'Abimélec. Abimélec est fils de Gédéon, appelé aussi Yerubbaal, et il s'est adressé aux notables de Sichem, cette place forte qui est connue aujourd'hui pour être Naplouse, et leur a dit, franchement, n'est-il pas mieux qu'un homme prenne le pouvoir plutôt qu'un pouvoir réparti entre 70 personnes ? Et pour joindre l'acte à la parole, il fait donc tuer ces 70 personnes qui sont aussi ses frères. Et seul réchappe Jotham. Jotham fut informé donc de ce massacre, et à partir du verset 7, voici ce qui arrive. Jotham alla se placer sur le sommet du mont Garizim, et voici ce qu'il cria à haute voix. « Écoutez-moi, notables de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Les arbres partirent pour aller oindre un roi à leur tête. Ils dirent à l'olivier « Règne sur nous ». Mais l'olivier leur répondit « Renoncerai-je à mon huile par laquelle, grâce à moi, on honore Dieu et les hommes, cela pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent au figuier « Viens, toi, règne sur nous ». Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres ?» Alors les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est vraiment ce que vous voulez, si vous voulez vraiment me donner l'onction comme roi sur vous, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Frères et sœurs, avant de reprendre cette fable, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières. Au cantique 193, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, et accomplit avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors nous te prions pour que ce matin, elle vienne une nouvelle fois arroser et féconder notre terre, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde, pour qu'elle soit semence pour notre vie, et nourriture sur notre route. Chers frères et sœurs, les Israélites viennent de connaître un coup d'État contre la démocratie. 70 personnes susceptibles de gouverner viennent d'être assassinées, tout simplement, permettant ainsi au commanditaire Abimélec d'être intronisé. Du massacre, vous l'avez entendu, il y a un rescapé, Yotam, ce qui signifie en hébreu l'Éternel accompli, l'Éternel complet, la plénitude de l'Éternel. Yotam se rend sur le mont Garizim. C'est un lieu particulièrement sacré. Dans la symbolique biblique, on dit que c'est le nombril du monde, l'axe autour duquel le monde tournerait, ce qui permet au monde de tourner rond en quelque sorte. Il prend la parole et s'adresse à tous les notables de Sichem. Alors nous serions en droit d'attendre qu'il assène quelques vérités bien tranchées. Nous serions en droit d'attendre qu'il dénonce ce véritable coup de force et qu'il demande que justice soit faite sur le champ. Et l'on attend de Yotam qu'il prenne la parole vigoureusement, qu'il dénonce, qu'il accuse, qu'il vilipende. Et au lieu de cela, Yotam va raconter une histoire, une fable digne d'Ésope ou de Jean de La Fontaine. Et cela semble bien dérisoire au regard de ce qui vient de se passer. Cela semble non seulement disproportionné, et pas dans le bon sens du terme, mais tout simplement ridicule, pas sérieux. Ridicule, pas sérieux. Eh bien voilà des critiques que je lis tous les jours chez les détracteurs de la religion, de tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à la religion. Dans le combat au sujet de la laïcité qui fait rage ces derniers jours, ces dernières semaines, des personnes se sentent manifestement investies d'une mission qui consiste à décrédibiliser tout ce qui, de près ou de loin, concerne la religion, le religieux, le fait religieux. Concernant le christianisme, ce sujet qui nous concerne plus précisément et dont nous sommes un peu capables de pouvoir répondre, concernant le christianisme, les attaques fusent aussi bien sur la théologie qui ne serait qu'une histoire de surnaturel pour débiles profonds, que sur les textes bibliques avec leurs contes de fées. Manifestement, des personnes qui n'ont jamais lu l'analyse du psychanalyste Bettelheim sur les contes de fées. Ce que je retiens, c'est qu'à nouveau, des coups de boutoir sont assénés en France pour éliminer le religieux du panorama. Et je dis bien éliminer, car c'est de cela dont il est question de façon très explicite. Et en disant cela, je ne cherche pas à dramatiser pour attirer quelque compassion que ce soit. Je ne cherche pas à attirer sur nous un regard miséricordieux et à exister à travers une victimisation. Des articles, des prises de parole publiques de journalistes, de personnes exerçant des responsabilités politiques ou non, disent très clairement que la laïcité, ce devrait être l'exclusion radicale du religieux. Ces personnes n'ont probablement jamais lu cette fable de Yotam. Dans une certaine mesure, c'est presque tant mieux, car il serait capable d'en dire que, vu le niveau intellectuel de la fable, la Bible doit être du même tonneau, et cela ajoute au fait qu'on ne peut décidément pas prendre les religions au sérieux. Sous-entendu, les affaires de la cité doivent être dans les mains des gens qui ont la tête sur les épaules. Peut-être des gens comme Abimélec. Cette fable, car effectivement, c'est bien d'une fable dont il s'agit, a pourtant sa place dans la Bible. C'est un texte qui n'a jamais été contesté dans le canon. Et c'est peut-être dans des situations semblables à celles que nous vivons que ce genre de texte a non seulement sa légitimité, mais que ce genre de texte est d'une redoutable efficacité. Parlons un peu de la fable et de ce qu'est une fable. Qu'il y ait des fables dans la Bible, n'a à vrai dire rien d'étonnant pour nous. Non seulement nous sommes habitués au genre littéraire fable par notre culture classique, mais ce n'est pas un cas rare dans la Bible. Les cours de français nous ont appris à ne pas considérer les fables comme des récits scientifiques destinés à décrire le fonctionnement de la nature, mais comme des récits poétiques, métaphoriques, destinés à décrire le fonctionnement de la société des hommes. Il n'en va pas autrement des textes bibliques. Les fables sont une manière de mettre en scène les hommes et les femmes aux prises avec le réel. Un réel qui ne s'épuise pas dans le physique, qui ne s'épuise pas dans le matériel, qui ne s'épuise pas dans le visible. Aucun croyant sérieux ne pense que le serpent de la Genèse parlait vraiment, ni que les arbres se mettent à converser pour choisir un roi. Les contes de la Bible, par exemple le livre de Jonas ou le livre de Job, sont autant d'histoires qui n'ont pas eu lieu, mais qui nous donnent à réfléchir sur notre vie. Et nous les prenons au sérieux parce que ce qu'ils disent prend la vie au sérieux. Et nul croyant sérieux ne considère que les choses ont pu se passer exactement telles qu'elles ont été racontées. L'intérêt de la fable, de la parabole, du conte, c'est de parler de la vérité sans organiser un choc frontal. Ce genre de choc frontal qui accourt aujourd'hui dans les débats publics sur les réseaux sociaux. Le choc frontal semble être le mode de fonctionnement privilégié ces temps-ci. Quelqu'un fait une déclaration et aussitôt, on lui oppose une déclaration contraire. Des personnes signent une tribune et on leur oppose une correction de la dite tribune. La communication, ces derniers temps, n'est qu'affaire de réaction. Et dans une certaine mesure, ceux qui réagissent, ceux qui ne réagissent que par réaction, sont des réactionnaires. On réagit au propos d'un tel, on réagit aux réactions d'une telle, ce qui provoque d'autres réactions en cascade. On en vient aux pétitions pour demander la démission d'un tel, ce qui provoque en retour une pétition pour soutenir le même. Et finalement, ce devient un concours pour savoir celui qui aura la plus grosse liste de soutien. Bref, nous sommes dans une logique d'affrontement que je ne saurais qualifier que par un seul mot, stérile. Personne ne sort grandi de ces querelles de cours de récréation portées sur la place publique, avec les effets de résonance que nous permettent les moyens de communication modernes. Qui gagne dans ce genre de combat de coq ? Personne. Car en vérité, il n'y a plus que des anathèmes. Des anathèmes qui se traduisent par « je te bloque sur le réseau social »,« je t'efface de ma liste d'amis », etc. Il n'y a que des perdants. Car dans ces logiques d'affrontement, on ne convainc vraiment que les convaincus. On ne fait que radicaliser ceux qui adhèrent à nos positions. Et c'est là tout l'intérêt de la fable. La fable rend la communication possible parce qu'elle ne braque pas les interlocuteurs. Dites un mot théologique ou un mot du vocabulaire religieux à quelqu'un qui ne veut plus entendre parler de religion et vous pouvez être sûr qu'il ne vous écoute plus. Alors, en déplaçant les interlocuteurs sur un terrain neutre, la fable rétablit l'écoute et donc la communication. Du moins, elle rend cela possible. Elle dédramatise. Elle décrispe, elle décontracte, dans la mesure où elle neutralise les conflits sur la forme. Et aujourd'hui, tant de choses se jouent sur la forme et non plus sur les idées. Bien des personnes qui partagent les mêmes convictions sur l'humanité qu'ils souhaitent se déchirent sur des questions formelles. N'oublions pas que les religions sont comme des langues. Des langues qui permettent de dire ce qu'il y a de plus ultime pour chacun. Cela signifie que nous pouvons parler des langues différentes et pourtant dire la même chose. Cela signifie que nous pouvons avoir des religions différentes et a fortiori ne pas avoir de religion dite officielle, et pourtant penser, dire et désirer les mêmes choses. Eh bien, la fable crée un terrain d'entente possible, par-delà les références culturelles propres. Pour finir ma défense du texte biblique et des contes qu'il contient, je dirais que ce genre littéraire est respectueux des personnes. Il évite de blesser en accusant nommément. Le but est de permettre à chacun de prendre conscience d'une situation, de prendre conscience de mécanismes à l'œuvre dans notre monde et en tenir compte pour sa propre analyse et donc, a posteriori, pour ses propres choix. La fable, vous l'avez entendu ici, n'attaque pas le sujet de front et elle ne nomme pas directement les accusateurs. La fable ne commence pas par accuser l'adversaire d'être un ignorant, un incapable, un usurpateur, un radicalisé. La fable expose une situation qui, a priori, ne nous concerne pas directement, ce qui nous permet de l'écouter plus tranquillement, sans nous sentir accusés et donc sans déjà préparer la réplique. La fable nous permet de prendre conscience d'une situation et de pouvoir la juger, peut-être pas objectivement, car on ne juge jamais totalement objectivement, mais en se dépouillant un peu de son orgueil, de son narcissisme et de ce sentiment préalable d'avoir l'impression que l'autre est toujours contre moi. Une fable est bien inoffensive à première vue, d'autant qu'elle ne fait pas d'attaque personnelle, ces fameuses attaques ad hominem qui pullulent également de nos jours. Alors j'en viens à ce que dit cette fable, car il ne s'agit pas d'en rester simplement à la surface des choses. Que nous dit cette fable aujourd'hui ? Eh bien, elle nous parle de tous ceux qui ont accédé au pouvoir par défaut. Mais plus précisément, si nous regardons bien ce qui est dit, cette fable s'adresse à tous ceux qui ont permis et qui permettent cela. Les notables de Sichem sont bien les destinataires de la fable. Ce n'est pas à Abimélec que Yotam s'adresse, mais aux notables. Ce sont eux, l'olivier, le figuier, la vigne, qui ont mieux à faire que de s'intéresser au bien commun. Leur prestige personnel l'emporte sur le bien de la société. Leur narcissisme les empêche de se mettre au service de la communauté. Ces notables ont refusé de renoncer à une part de leur gloire ou de leur vie facile. Ces notables ont refusé de renoncer à l'irresponsabilité. Or, c'est précisément sur cet aspect que Yotam va les amener à réfléchir et va les amener à répondre de leurs actes ou de leurs non-actes. Abimélec est au pouvoir, mais pour quelle raison ? Est-ce parce qu'il considère que c'est un bon choix ou est-ce pour une autre raison ? Et dans ce cas, quelle est la raison pour laquelle les notables ont accepté qu'Abimélec prenne le pouvoir ? Yotam, en racontant cette histoire, donne un critère pour évaluer le choix de celui qui règne. Est-ce un bien absolu ? Est-ce une vérité ? En hébreu, c'est le terme « emet » qui est employé. Emet qui signifie la vérité et qui donnera aussi emuna, la confiance. C'est la raison pour laquelle parfois ce texte est traduit par « est-ce de bonne foi que vous avez intronisé Abimélec, le buisson plein d'épines ?» Est-ce un bien absolu ou non ? Est-ce parce qu'il avait le profil pour le poste ou est-ce pour une autre raison ? Si ce n'est pas un bien absolu, c'est donc un bien relatif, ce qui signifie que le choix a été fait pour d'autres raisons que l'objectif de gouverner. Il se pourrait que les notables aient accepté l'intronisation d'Abimélec pour avoir la paix dans leurs affaires personnelles. Il se pourrait que cela les arrange à titre personnel qu'ils soient au pouvoir, soit parce que la nature a horreur du vide et qu'il fallait bien remplir l'organigramme, soit parce que cette personne saura leur rendre service, leur renvoyer l'ascenseur. Et au fond, c'est une instrumentalisation. On le met aux commandes de façon à pouvoir s'en servir et à en profiter à titre personnel. Quelles que soient les motivations, Yotam dénonce cette situation qui consiste à mettre quelqu'un au pouvoir pour une autre raison que la conduite des affaires publiques. À la limite, le comte se moque bien de savoir comment Abimélec a obtenu le pouvoir. Le comte s'interroge sur le bien fondé de l'intronisation d'une personne qui n'a pas à cœur la mission qui lui est confiée. Au fond, ce comte s'interroge sur tous ceux qui prennent le pouvoir sans le désir de la gestion du pouvoir. Le pouvoir pour lui-même et non pour la mission qu'il contient. Et là est toute la différence entre Moïse et Abimélec. Souvenez-vous de ce Moïse qui est lui aussi face à un buisson, et un buisson qui flambe justement. Il flambe mais ne consume pas. Parce que Moïse se tient face à l'ultime. Moïse ne tient pas pour évident de vivre selon son propre désir seulement, mais il va se laisser convertir par l'ultime et assumer la responsabilité qui lui est demandée, à savoir libérer le peuple d'Égypte de la servitude et lui permettre d'accéder à la liberté, ce qui est le sens même du pouvoir politique, la liberté de chacun. Concernant les notables de Sichem, il se pourrait que ce n'est pas cela qui les ait motivés. En conséquence, il se pourrait que le buisson flambe et consume très largement. Ainsi, cette fable biblique nous offre une approche théologique de la responsabilité politique, de la question du pouvoir en général. Avec un langage religieux, cette fable aurait dit « Si vous vous éloignez de la parole de l'Éternel, vous ne prolongerez pas la durée de vos jours. » Dans le langage populaire, elle dit que si nous instrumentalisons le pouvoir, si nous nous en servons à d'autres fins que le service minimum et le service commun, alors même les plus vigoureux s'en trouveront consumés. On pourra toujours me dire que le christianisme est une affaire dépassée, que cela ne fait même plus sourire les enfants. Pour ma part, je constate que la théologie chrétienne est encore en mesure de redonner un sens politique aux personnes. La théologie appelle chacun à être responsable de ses choix. Et ces choix ne concernent pas simplement l'intime. Ces choix ne concernent pas simplement le domaine de l'alcôve. La théologie appelle chacun à être responsable de ses choix, des choix qui ont toujours des répercussions sur la place publique. Elle appelle donc chacun à prendre conscience des conséquences néfastes lorsque nous faisons des choix conditionnés pour d'autres raisons que celles qui concernent le sujet à traiter. Autrement dit, lorsque nous jouons au billard à plusieurs bandes, que nous faisons ceci pour obtenir cela qui permettra de réagir là-dessus et au fin de compte, peut-être, d'avoir un retour sur investissement. Voilà pourquoi nous serions bien inspirés de continuer à raconter les histoires de la Bible et pourquoi pas à en produire d'autres. Et il se pourrait que nous ayons finalement l'équipement nécessaire, chacun individuellement, pour produire de nouveaux contes, produire de nouvelles fables et les offrir à nos concitoyens pour dédramatiser, pour essayer de faire un peu retomber la tension, pour essayer de rompre cette logique d'affrontement. Nous avons un besoin ardent de renouer le contact entre communautés de pensée, entre communautés culturelles, religieuses, entre toutes formes de communautés. Nous avons un besoin ardent de nous entendre, quelles que soient nos convictions du moment, quels que soient les propos que nous avons tenus jusque-là, quelles que soient les étiquettes qu'on nous inflige. Et il me semble que la théologie nous aide à déployer une pédagogie qui nous fasse passer de l'affrontement à ce dialogue nécessaire. Parce que la théologie est ce qui nous remplace toujours devant les véritables enjeux. Amen. cantique 365 sera l'occasion de chanter une activité théologique à laquelle nous sommes appelés. Comme il n'est pas très familier, nous allons laisser à notre organiste Jean-Dominique Pasquet le soin de nous le jouer une première fois à blanc, et ensuite nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenons place pour partager des informations, en commençant par une information dans les familles. Vous annoncez le décès de Jean-Daniel Parizet, un membre de notre communauté qui avait été notamment conseiller presbytéral. Et ses obsèques auront donc lieu ici même, vendredi, à 10h. Nous aurons, à l'issue de ce culte, l'occasion de partager un verre fraternel dans la grande sacristie. Et j'en profite aussi pour dire que ce sera l'occasion de saluer le pasteur Philippe Vasseau, qui est de retour dans la région parisienne. Philippe qui a occupé cette chaire ici même avant nous. Et donc nous sommes heureux de te saluer, de te compter à nouveau parmi nous. Cet après-midi, c'est aussi une après-midi de l'oratoire, avec donc la possibilité pour ceux qui le désirent de rester ensemble, de partager un repas tiré des sacs et ensuite d'avoir une activité culturelle choisie en commun. Demain, lundi, le groupe de grec biblique pour les progressants se réunira à 19h30, salle Roberti. À 20h, approfondissement théologique sur le thème « Science et foi, foi et raison », c'est à 20h, salle Mono. Mardi, groupe biblique pour ceux qui sont débutants, c'est à 19h30, salle Verne. Mercredi 3, le grec biblique, cette fois pour les confirmés, oui, on est précis, hein. Et ce sera à 15h30, salle Verne. Jeudi, le chœur à sa répétition à 19h30, salle Mono. Samedi, le groupe d'hébreu biblique se réunit à 10h, salle Verne. Et dimanche prochain, le culte à 10h30 sera présidé par le professeur Frédéric Chavel, qui enseigne la dogmatique à l'Institut protestant de théologie à Paris. Le culte sera suivi d'un repas paroissial, et pour faciliter l'organisation, nous vous invitons à vous inscrire d'ores et déjà au comptoir librairie auprès de Philippe Bertrand, ou durant la semaine en prenant contact avec le secrétariat. Cela nous sera précieux. Je vous annonce aussi d'ores et déjà une soirée Société en débat qui aura lieu le mardi 16 février, salle Mono. Ce sera avec Béatrice Gibelin, qui est géographe spécialisée en géopolitique. Elle avait fondé avec Yves Lacoste la revue Hérodote et elle la dirige de nos jours. Et le thème, le titre de cette soirée, c'est « La religion, ça sert d'abord à faire la paix et pourtant ». Et donc ce sera une conférence qui permettra de mettre en lumière l'instrumentalisation de la religion dans le champ politique. Donc une conférence tout à fait intéressante. C'est maintenant le moment de l'offrande et que cette offrande soit l'occasion d'un don joyeux et responsable. Nous nous unissons dans la prière. Éternel, donne-nous d'habiter la terre, de l'habiter avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous savons, tout ce que nous désirons. Donne-nous d'habiter la terre avec toute la tendresse dont tu nous rends capables. Ce courage d'être que tu instilles en nous toute l'espérance qui nous stimule au cœur de notre être. Donne-nous, Seigneur, d'habiter la terre avec un cœur ouvert à tous ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui parfois nous font peur, ceux que nous détestons, ceux que nous ignorons, ceux qui ne nous écoutent plus. Donne-nous, Seigneur, d'habiter la terre avec nos limites, mais aussi avec nos élans, avec notre pauvreté et tout ce que nous avons de richesse. Donne-nous, Seigneur, d'habiter la terre et de vivre fort de cette vérité que tu places devant notre existence. Puissant de ta puissance d'amour, pour que nous puissions transfigurer l'ordinaire et porter toute vie à son plein accomplissement. Nous n'avons pas la foi égoïste, du moins nous essayons. Alors c'est en communion avec tous les croyants et tous les incroyants que nous te disons ces paroles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, entendons à nouveau que l'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel porte sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Vers toi, il tourne sa face et te donne sa paix. Amen.